Chers auditeurs de Radio Silence, voici la causerie de Roger Lemasne pour Radio Silence. Avant d'aborder le sujet de ce soir, entre les élections présidentielles et les élections législatives, je voudrais rappeler la première épître de Saint Paul à Timothée. Je cite « J'exhorte avant toute chose que l'on fasse des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Première lettre à Timothée, chapitre 2, 1. Et aussi le passage que l'Église nous a proposé tout récemment, le troisième dimanche après Pâques, selon le calendrier liturgique dit de Saint Pie V, épître de Saint Pierre, chapitre 2, à lire et appliquer avec discernement. Je cite « Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, au roi comme souverain, au gouverneur comme délégué par lui pour faire justice des malfaiteurs et approuver les gens de bien. » Fin de citation. Je me suis inspiré pour le sujet d'aujourd'hui d'un ouvrage anglais qui m'est tombé sous les yeux de Joseph Di Bruno, Catholic Belief, la foi catholique. Parlons donc de la prédestination. Dieu, en raison de sa bonté, miséricorde et sainteté, désire le salut de tous les hommes. Saint Paul déclare « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui se donna lui-même en rédemption pour tous. » Tel est le témoignage rendu en temps opportun. Première lettre à Timothée 2, 4. Et encore, lui qui n'épargna même pas son propre fils, mais le livrait pour nous tous. Lettre aux Romains 8, 32. Saint Pierre déclare que Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous fassent pénitence. Deuxième lettre de Saint Pierre 3, 9. Jésus nous touche, il se représente lui-même comme frappant à la porte de nos cœurs, très désireux d'y être admis. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Apocalypse 3, 20. Celui qui est perdu, malgré les moyens de salut que Dieu lui apporte, ne peut en toute justice blâmer Dieu, mais seulement lui-même et ses propres péchés. Le péché est en effet la seule cause d'exclusion du ciel. Pourquoi ? Personne n'est un réprouvé, il ne l'est que par sa faute seule. C'est notre Sauveur qui reprocha justement aux Juifs qui refusaient d'être sauvés, avec ses paroles « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Matthieu 23, 37. La grâce est un don de Dieu entièrement gratuit par lui-même, et si excellent qu'aucune créature, indépendamment du Christ, n'est capable de la mériter par ses œuvres seules. Mais notre divin Sauveur a mérité celle-ci pour nous en versant son précieux sang, et en raison des mérites infinis que sont ceux du Christ. La miséricorde divine donne à chaque homme une grâce suffisante pour son salut. Même les plus grands pécheurs sont remués de temps en temps par la grâce, pour qu'ils retournent à Dieu, et Dieu leur donne la grâce suffisante pour qu'ils reviennent. Il est cependant vrai que Dieu distribue ce précieux don d'une manière inégale, donnant plus à certains et moins à d'autres, suivant les desseins impossibles à discerner de sa volonté et de sa sagesse divine. Mais à personne il ne donne moins de grâce que ce qui est nécessaire pour son salut. La bonté de Dieu rencontre l'âme et donne à chacun gratuitement une première grâce, ce qu'en théologie on appelle la grâce actuelle, avec l'aide de laquelle l'âme peut accomplir de bonnes œuvres et obtenir de nouvelles grâces. Les saints patriarches Job et Abraham, la femme syrophénicienne Nicodème et le centurion en sont des exemples. Plus fréquemment, l'une des premières grâces est celle par laquelle nous prions afin d'obtenir une aide plus abondante. Cette première grâce peut être comparée à une somme d'argent donnée à un pauvre. Celle-ci, bien placée, peut faire sa fortune, mais si elle est gaspillée, elle ne lui rapportera rien. Chacun peut, par sa prière, obtenir davantage de grâce de Dieu, se préparer à obtenir le don gratuit de la justification, et en coopérant et avançant avec Dieu, arriver à la vie éternelle. Le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est éternel et sait tout, connaît par avance la coopération du bon disciple à sa grâce, ses bonnes œuvres, sa persévérance et son salut final. Comme le salut des bons disciples est le fruit de la grâce de Dieu, dans la mesure où il sait par avance qu'il en fera un bon usage et n'y résistera pas, bien qu'il ait la possibilité de le faire. Il s'ensuit que ceux qui sont sauvés peuvent être considérés comme prédestinés, car leur salut n'est pas seulement prévu, mais effectué par Dieu, par sa grâce qui les a sanctifiés et les a aidés dans le bon usage de leur libre arbitre, en eux et sans contrainte. On peut ainsi comprendre la prédestination des bons qui seront sauvés, mais on ne peut pas dire au sens strict qu'il y a prédestination des méchants. Car si Dieu, dans un éternel présent, connaît par avance leur résistance à sa grâce, leur obstination à pécher et leur condamnation finale, il ne le veut pas par avance, il n'est pas responsable des œuvres du méchant qui reste libre. Bien plus, le fait qu'il a néanmoins déversé sur eux sa grâce pour leur permettre de bien faire prouve le contraire. Si Dieu, par sa grâce, qui ne refuse à personne, nous remue et nous permet d'éviter de pécher, on ne peut dire de lui qui nous conduit au péché, au cas où nous voulions résister à sa grâce. Le second concile d'Orange, en 529, a déclaré: nous ne croyons pas que certains soient prédestinés au mal par la puissance divine. Et saint Fulgence déclare: jamais Dieu ne pourrait avoir prédestiné l'homme à ce qu'il a lui-même voulu interdire, l'innocenter par sa miséricorde et le punir par sa justice. Ce qui évoque en nous la fameuse et blasphématoire traduction du Paternoster: ne nous soumets pas à la tentation. L'Église enseigne au Concile de Trente que comme Dieu voit d'avance tout ce qui arrive, il sait que certains enfants d'Adam n'atteindraient pas la vie éternelle au ciel, malgré la généreuse rédemption offerte par le sang du Christ, et cela parce que son précieux sang ne leur aurait pas, et par leur seule faute, été appliqué pour les libérer du péché originel. Ou encore que, bien que libérés du péché originel et justifiés, ils auraient, appuyés sur leur libre arbitre, résisté à la suite à sa grâce, qui leur aurait pourtant été donnée suffisante. Ils auraient plongé dans le péché, passé à côté de la justification, seraient morts sans repentance, et en conséquence, condamnés justement. Cependant, ce savoir d'avance ne peut être nommé proprement prédestination au sens strict. Et de fait, le mot prédestination n'est jamais appliqué par la Sainte Écriture à ceux qui sont perdus. On le trouve dans l'Épître aux Romains, mais appliqué aux justes, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à être en conformité avec l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Lettre aux Romains 8, 29. Ce savoir d'avance divin peut être dit prescience, vue avancée, prévision. Mais de telles appellations n'impliquent pas que Dieu prend une part active. Cette doctrine, telle qu'enseignée par l'Église catholique, est compatible avec la bonté de Dieu, sa justice, sa sainteté et sa sagesse. Avec les mérites du juste et les démérites de l'homme pervers, avec les commandements et les avertissements de Dieu, avec sa récompense pour les bons et sa punition pour les mauvais, et en accord avec la parole de Saint Jacques, que Dieu ne tente personne. Saint Jacques 1, 13. Mais on peut se demander pourquoi Dieu, qui peut prédestiner certains à la vie éternelle, ne peut prédestiner d'autres à la damnation éternelle. Le salut est un acte de miséricorde et ne peut être accordé même à ceux qui le mériteraient. La condamnation est un acte de justice et une punition et ne peut être infligée qu'à une personne coupable. Ainsi, Dieu ne peut prédestiner que dans le premier cas, et non dans le second, car Dieu ne peut être injuste. À ce sujet, saint Augustin dit éloquemment au sujet de la punition et de la récompense, « Dieu rend le mal pour le mal, car il est juste, le bien pour le mal, parce qu'il est bon, le bien pour le bien, parce qu'il est bon et juste. » Mais il ne donne pas le mal pour le bon, parce qu'il n'est pas injuste. Traité sur la grâce et le libre arbitre, chapitre 23 de saint Augustin. D'un autre côté, la prescience de Dieu concernant la perdition de certains hommes n'a pas la moindre influence sur leurs actions, et personne ne sera perdu en conséquence de la prescience nécessaire de Dieu, mais seulement celui qui a par lui-même mérité une telle condamnation. Que personne ne sera condamné s'il n'a pas commis quelque grande faute est clair suivant la parole de l'Écriture que Dieu rendra à chaque homme suivant ses œuvres. Lettre aux Romains 2, 6. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Saint Luc 13, 27. Écartez-vous de moi, vous maudits, vers le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Matthieu 25, 42. Les mauvais seront poussés en enfer, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 9, 17. Tous ces passages et d'autres similaires montrent que ceux qui sont perdus le sont en raison de leur culpabilité en péchant gravement. On pourrait objecter que certains textes présentent Dieu comme l'auteur du péché, qu'il aima Jacob et détesta Ésaü, Malachie 1, 2 et Romains 9, 13. Qu'il noircit l'esprit de certains afin qu'ils ne puissent voir, qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Mais il faut comprendre que c'est une façon imagée de parler. Ce que l'on appelle l'analogie de la foi signifie qu'il ne peut y avoir de contradiction dans la Sainte Écriture. C'est pourquoi l'Écriture doit être lue dans l'interprétation de l'Église catholique. la doctrine de la prédestination, entendue dans le sens catholique, loin de décourager la prière, le zèle et la loyauté, l'espérance et toutes les bonnes œuvres, constitue un soutien à celle-ci, parce que Dieu a prédestiné les hommes de manière qu'ils puissent atteindre le salut par les moyens mêmes par lesquels nous nous efforçons d'imiter notre Sauveur Jésus-Christ et de devenir, comme saint Paul le dit, en conformité avec son image. Lettre aux Romains 8, 29. En conclusion, aussi longtemps que nous restons en vie avec le témoignage du Saint-Esprit, nous devons vivre avec une sainte confiance. Peut-on dire pour autant que notre salut ne peut être connu de nous avec la certitude de la foi, et que donc personne ne doit présumer de sa sécurité ou de son éviction dans le désespoir? Mais ne serait-ce pas un péché contre la vertu d'espérance de ne pas être certain de son salut? Nous devons aimer Dieu et avoir confiance en sa justice et sa miséricorde, et suivre le conseil de saint Paul, travailler avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lettre aux Philippiens 2, 12.